Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers.
Europe 1, 14h-15h, Cote B.
Christophe Ondelatte.
Nous allons ouvrir la côte B du dossier d'instruction de Bruno Chollet, un violeur multirécidiviste qui a passé la moitié de sa vie en prison et qui un jour bascule dans le meurtre. En avril 2008, à la sortie d'une boîte de nuit parisienne de la rue de Rivoli, Chollet enlève Susanna Zetterberg, une étudiante suédoise de 19 ans. Il la tue de 4 balles dans la tête à bout touchant. Et pour effacer toutes les traces de son crime, il met le feu au cadavre et l'abandonne en forêt de Chantilly, près d'un amas de détritus. Évidemment, vu le profil de prédateur sexuel de Chollet, on imagine, mais on n'a pas de preuves, qu'il a violé Susanna. Mais lui nie. Il nie tout, malgré des preuves accablantes. Il ne reconnaît même pas l'enlèvement de l'étudiante. Âgé de 51 ans au moment du meurtre de Susanna, Bruno Chollet est un accusé à la personnalité rare. Il connaît son dossier par cœur. Et il est bien décidé à ne pas laisser les experts sceller son sort. Côte B117. Madame la juge, j'ai le regret de vous faire part de l'impossibilité à honorer la mission d'enquête de personnalité. Notre enquêtrice s'est rendue à la prison de Fleury-Mérogis. Bruno Chollet s'est refusé à coopérer.
Le contact au début a été un petit peu difficile pour cet homme qui avait déjà évidemment eu affaire à des experts.
Alain Penin, expert psychologue.
Et qui était un petit peu assuré dans ses déclarations. Il entendait que l'on écoute tout ce qu'il avait à dire et il critiquait de façon tout à fait ouverte les précédents collègues experts. Qui avait selon lui émis des conclusions plutôt hâtives à l'issue d'un temps d'entretien qui, de son point de vue, était trop court. Donc, ça a été à deux doigts du refus, ce qui me concerne. Il y a encore une expertise, mais vous rendez compte, moi je ne suis pas... j'en ai eu je ne sais pas combien, à chaque fois il reste 20 minutes avec moi et il tire des conclusions qui me sont défavorables. Donc, j'étais obligé de négocier et de l'assurer de mon écoute totale le temps qu'il voudrait et le nombre de rencontres qu'il souhaiterait. Et c'est vrai que l'examen a duré longtemps. Donc, je me suis tenu à sa disposition et je me suis donc plié à ses exigences à lui.
Bruno Chollet, 55 ans, multirécidiviste, est accusé d'avoir tué en avril 2008 Susanna Zetterberg. La jeune étudiante suédoise de 19 ans est prise en charge par un faux taxi après une soirée dans une discothèque parisienne. Le corps de la jeune fille a été découvert à moitié calciné dans la forêt de Chantilly. Des traces d'ADN de Bruno Chollet ont été retrouvées sur l'arme du crime et des gants en latex. Malgré ces preuves accablantes, il nie les faits.
Alain Penin, expert psychologue.
Il y a comme toujours, face à quelqu'un qui nie les faits, le psychologue expert a du mal à entrer dans une tentative d'analyse du comportement criminel. S'il avait reconnu les événements, j'aurais pu aller beaucoup plus loin dans la genèse de ce passage à l'acte. Mais là, il va me dire, je ne suis pour rien là-dedans, je n'ai rien à voir là-dedans. Une femme, une jeune fille a été battue, brûlée. Moi, on m'accuse d'être l'auteur des faits, je n'ai strictement rien fait. Alors, bien sûr, j'ai un passé, mais moi, je n'ai jamais tué qui que ce soit. Je suis serein. Je sais qu'il y a mon ADN qui a été retrouvé sur l'arme, mais mon ADN est minoritaire. Donc, une attitude de négation totale de toute forme de responsabilité. Alors, plusieurs niveaux, évidemment. Un premier niveau utilitaire. C'est pas moi, je n'ai rien fait, je n'étais pas là. Donc, première tentative de protection contre des investigations. Mais il y a peut-être un deuxième niveau un petit peu plus inconscient. S'il est l'auteur de ces agissements, il est certain que l'image qu'il va avoir de lui, celle d'un prédateur sexuel, celle d'un assassin et celle d'un homme particulièrement agressif qui va tenter de faire disparaître les preuves, cette image est loin de flatter son ego. Donc, s'il admet cette culpabilité au sens pénal du terme, mais aussi s'il accède à la culpabilité au sens moral, le risque, c'est vraiment cet effondrement narcissique qui pourrait être délétère pour sa propre personnalité. D'où peut-être sa façon de mettre à distance les événements pour s'exonérer de la responsabilité de leur commission.
Côte B94, rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Fishman, Matisse et Meyer-Buisson. Bruno Chollet veut affirmer avec une logique implacable que tout son passé le condamne. Je suis déjà jugé, il n'y a aucun problème, donc tout se jouera sur la cassation. Bruno Chollet conteste les rapports d'expertise. Il dit que les experts sont des abrutis.
Je rencontre Monsieur Bruno Chollet la première fois alors qu'il y a déjà l'instruction qui s'est quasiment terminée. Il fait appel à moi parce qu'il conteste les faits. Je m'appelle Aurélie Cerceau, je suis avocate au barreau de Paris et de Montréal et j'ai été, il y a quelques années, l'avocate de Bruno Chollet. Il veut qu'un avocat ait un œil neuf sur son dossier et il m'écrit en me demandant de venir le voir. Il est à ce moment-là incarcéré à Fleury-Mérogis et je me rends à Fleury-Mérogis où il est dans un quartier fermé, protégé. On m'installe au parloir avocat. Je suis seule dans cette toute petite salle et je sais à peu près à quoi il ressemble et j'entends des pas.
Hé hey Chollet, parloir avocat, c'est pour toi. Maître Cerceau, tiens-toi droit et pas d'embrouille, ok?
J'entends la porte qui s'ouvre et je vois arriver un homme, Bruno Chollet, avec deux énormes valises remplies de son dossier, de toutes les pièces de son dossier. Il souffle, il a du mal à respirer, il pose ses deux énormes sacs, il s'assoit, il me regarde, il reste silencieux. J'observe ses valises, je l'observe et il se présente. C'était fou. C'est fou, c'est-à-dire qu'on avait, il avait même réussi, alors je ne sais plus par qui, mais avoir des post-it. Il avait plein de post-it, il y avait des couleurs, il y avait, je ne me souviens plus du... Mais il y avait des couleurs, la couleur bleue, c'était demande d'expertise, la couleur jaune, c'était sur la personnalité d'un tel, et qu'il voulait des expertises ou bien des vérifications pour assurer qu'à telle heure, tel jour, cette personne-là n'était pas là. Et donc il y avait un code couleur pour tout. Il avait aussi demandé à avoir accès à un code pénal, procédure pénale. Donc il faisait des liens avec tel article en disant « ça ne correspond pas », il y a des erreurs, enfin, c'était assez incroyable. Je n'ai jamais vu ça, quelle que soit la matière, que ce soit en pénal des affaires, dans les affaires criminelles, dans les affaires correctionnelles, que ce soit des gens instruits, pas instruits, je n'ai jamais vu ça. C'était stupéfiant à quel point il voulait absolument que chaque détail soit pris en compte, y compris sur son passé judiciaire. C'est vrai que dans le dossier de Bruno Chollet, ce qui a été très difficile, c'est de voir que le dossier avait plein d'éléments accablants, plein de preuves accablantes, qu'il mettait en cause et qui laissait peu de place au doute sur sa culpabilité. Et d'un autre côté, on avait Bruno Chollet qui niait totalement les faits, mais farouchement les faits. Alors c'est compliqué parce que soi-même, on lit le dossier et on voit des preuves qui peuvent apparaître accablantes au début. Mais j'ai su que je réussirais à le défendre parce qu'il y avait ces zones d'ombre et parce que cet homme-là, par sa personnalité, par sa manière de parler, m'a convaincu qu'il fallait que je le défende.
Bruno Chollet n'en démord pas. Il est innocent. Il est victime d'un complot de la police qui a tout manigancé pour qu'il porte le chapeau.
L'appel peut être surveillé ou enregistré.
Janvier 2019. Enregistrement téléphonique de Bruno Chollet depuis sa prison.
Pour en revenir au véhicule, il a été reconnu qu'il n'y avait qu'une seule et unique trace de pneus. Et quand les gendarmes sont venus et qu'ils ont fait des empreintes des traces du véhicule, il n'y a qu'un seul véhicule qui avait été à cet endroit-là. Il n'y en a pas 36, un seul. Eh bien, qu'est-ce qu'on lit en code D26-27? C'est l'avant-dernier paragraphe. Aucune correspondance ne peut donc être établie entre le moulage et le pneu du véhicule utilisé par M. Chevet-Bonon. C'est pas moi qui le dis, c'est les experts. Il y a une seule trace sur place, d'un seul véhicule. Ils en prennent le moulage, c'est pas le mien. Et il y a plein de trucs comme ça. Plein.
Bruno Chollet, il s'intéresse à lui-même, bien sûr, parce qu'il n'a pas de famille, il est tout seul.
Aurélie Cerceau, avocate de Bruno Chollet.
Personne ne se préoccupe de lui, mis à part lui-même et ses avocats, mais ses avocats sont ses avocats. Et donc, il va éplucher le dossier de fond en comble. Il connaît toutes les cotes par cœur, mais alors parfois, c'est à très bon escient. Parfois, il voit des choses que même nous, avocats, on passe très rapidement. Donc, il va voir que l'expertise des pneus, des traces de pneus n'a pas été réalisée, alors que c'est important dans son dossier. Il va voir plein d'éléments et il connaît son dossier par cœur. Alors, est-ce que c'est de l'égocentrisme ou c'est tout simplement parce que finalement, le centre de sa vie, c'est son procès et c'est son avenir. S'il réussit à démontrer qu'il est innocent, il sort, il est libre et il peut construire une vie. Et il a un rêve de vie. Ou bien, s'il est déclaré coupable, sa vie s'arrête net. Il sait qu'il va être condamné à perpétuité avec une peine de sûreté telle qu'il a peu de chances de sortir vivant de détention. Donc il le sait. Donc il se focalise sur le dossier. Et effectivement, il va demander plein d'expertises, de contre-expertises. Il va tanner tout le monde hein, pour avoir des résultats sur ce qu'il considère être important. Et parfois, il a raison.
Janvier 2019, enregistrement téléphonique de Bruno Chollet depuis sa prison.
La cote D575/1. Bien. Là, vous avez l'avenue de Longchamp. Et bien, moi, j'étais à cet endroit-là. Et eux, ils disent que j'étais à peu près 30 à 35 mètres plus loin. Donc, c'est à ce moment-là que moi, je demande une reconstitution qui m'a toujours été refusée. Et on me refuse la reconstitution.
Côte B sur Europe 1. Christophe Ondelatte.
La Côte B est un sous-dossier du dossier d'instruction qui rassemble les expertises qui concernent la personnalité de l'accusé. Son enfance, par exemple. Dans le cas de Bruno Chollet, le traumatisme commence à sa naissance et même au moment de sa conception. Les premières années de sa vie font froid dans le dos.
Je pense qu'il a été très tôt en difficulté avec l'image paternelle.
Alain Penin, expert psychologue.
Et il est extrêmement négatif à l'endroit de cet homme qu'il va qualifier non pas de papa, mais de géniteur inconnu. Et il va assez loin puisqu'il va dire de cet homme que c'est un salopard. Donc, effectivement, il n'a pas été en lien avec une figure paternelle dont on sait l'importance dans la structuration, dans l'organisation de la sécurité psychique et de la personnalité.
Code B57, expertise psychologique de Bruno Chollet par Jean-Yves Charvieux et Alain Penin. Les experts écrivent: Bruno Chollet est né le 11 avril 1957 à Épernay. Il précise être le fils d'un géniteur inconnu. Il se montre très négatif à l'endroit du personnage. Il s'appelle Consueldo. C'est un repris de justice. C'est un salopard. Il a quitté ma mère alors qu'elle était enceinte de moi.
Ce qui est assez terrible chez Bruno Chollet, c'est que dès sa naissance, vraiment de sa naissance, il y a déjà des parts d'ombre. Sa part d'ombre, elle existe tout de suite. Alors qu'en principe, un bébé, hein, c'est innocent. Déjà, c'est un peu la lumière est là pour un enfant, un bébé. Et lui, pas du tout.
Aurélie Cerceau, avocate de Bruno Chollet.
Lui, il naît et quelques semaines plus tard, sa mère n'arrive plus à le gérer, n'arrive plus à le supporter et il est envoyé en pouponnière. Il a même pas quelques semaines. Hein. Jusqu'à 6 mois. Ces 6 premiers mois, il n'est pas son pouponnière. Il ne voit pas sa mère. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a rien. Il y a l'amour certainement des gens qui s'occupent de lui, mais ce n'est pas l'amour d'une mère. Il n'y a rien.
Sa mère, effectivement, n'est pas très disponible, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'elle travaille par ailleurs, elle travaille dans des brasseries, elle est soignante.
Alain Penin, expert psychologue.
Et cette petite enfance qui est la sienne est marquée par des placements, mais incalculables. Donc il va de placement en placement, il va de nourrice en nourrice, et le second élément est l'existence de ce qu'on appelle une dette affective. Donc il est constamment en train de chercher, de demander de l'affection qu'il ne trouve pas. Et dans ces circonstances, et jusqu'à l'âge de 5 ans, il est effectivement un enfant tout à fait turbulent. Alors, il y a tout de même un placement qui est structurant et très significatif pour lui. C'est lorsqu'il va être placé chez l'âme qu'il appelle Madame Voisin. Et là, il va recevoir, je le cite, beaucoup de tendresse. C'est auprès d'elle que il va se structurer, qu'il va faire le plein, si j'ose dire, de l'immense besoin d'affection qui est le sien. Et il est tellement convaincu que ce placement est structurant qu'il me prononce une phrase qui m'a sidéré. Il m'a dit « Si j'étais resté chez elle, je serais là maintenant à votre place. » Sous-entendu, je ne serais pas l'homme que l'on accuse des horreurs que l'on me reproche en tout cas, mais je serais quelqu'un de tout à fait en place sur le plan social et tout à fait estimable. Et donc, ce placement qui était structurant, malheureusement, a été interrompu, puisque, effectivement, on a décidé, les services sociaux ont décidé de le replacer chez sa mère. Et là, la rupture avec Madame Voisin, cette femme qui vraiment l'avait aidé à s'organiser sur le plan psychologique, cette rupture est vécue, encore une fois, tout à fait douloureusement.
Et la pardon, elle grossit. Comment voulez-vous qu'un enfant à 3 ans, c'est un bébé quasiment.
Aurélie Cerceau, avocate de Bruno Chollet.
À qui on dit tu n'es pas aimé, tu n'es pas désiré, tu n'es pas voulu, tu n'as jamais été, et puis qui est ballotté de centre en centre, se retrouve à 5 ans, et ben il est foutu à la porte de la maternelle. Ça marche pas, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher quand on n'a jamais été aimé, quand on n'a jamais eu le sentiment d'être en sécurité. Donc la pardon, elle grandit. Mais quand la pardon commence à 6 mois, comment voulez-vous ? À 5 ans, elle est énorme, elle est gigantesque. Et puis c'est pour ça qu'en maternelle, ça ne marche pas. On en connaît peu quand même des enfants qui sont foutus à la porte d'une maternelle. Enfin, c'est quand même rare. Et puis il bascule très vite. À 5 ans, ben là on le met dans des milieux hospitaliers, psychiatriques. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans.
Code B86. Rapport d'expertise des docteurs Fishman, Matisse et Meyer-Buzan. À 7-8 ans, Bruno Chollet est hospitalisé en psychiatrie pendant quelques mois à Clermont dans l'Oise. Il s'est énervé et les infirmiers l'ont mis dans une chambre de contention. Il a reçu des somnifères et des neuroleptiques. Son oncle, venu lui rendre visite, est choqué de le voir transformé en légume.
Bonjour Madame Chollet, vous allez bien ? Je suis sincèrement désolé, mais votre fils dort profondément. Vous n'allez pas pouvoir le voir tout de suite, alors ce que je vous propose, c'est de patienter un petit peu en attendant qu'il se réveille. Ça ne devrait pas tarder.
Il faut attendre, elle n'a pas le temps. Il se réveille et il voit, au moment où il regarde par la fenêtre, il voit sa mère qui part, il ouvre la fenêtre, il hurle « Maman ». Il lui fait un signe pour qu'elle revienne. Elle le regarde, elle lui dit au revoir, elle ne remonte même pas pour l'embrasser et elle repart. La pardon continue à augmenter, la haine des autres, la volonté d'être aimé, mais cette incapacité à l'être. Parce que justement, quand on n'a pas appris à être aimé, quand on n'a pas été aimé, on a du mal à rendre l'amour.
Bruno Bruno Chollet est reconnu par le nouveau compagnon de sa mère. Il porte son nom, mais il vit à l'écart du foyer. Il ne vit pas avec sa mère, son beau-père et sa petite sœur.
À 11 ans, il est replacé à nouveau dans des instituts médicaux, jusqu'à 12 ans, à 13 ans. En fait, il reste enfermé.
Aurélie Cerceau, avocate de Bruno Chollet.
Et il voit ses parents de temps en temps. Donc, forcément, sa noirceur, sa douleur, le fait de ne pas apprendre à aimer parce que personne ne l'aime, il va se construire dans une haine, dans une incompréhension. Cette société qui l'accable, ses parents qui le rejettent, sa petite sœur qui, elle, ne doit pas bien comprendre, ils ont 7 ans d'écart, et qui ne veut pas qu'il vienne, parce que quand il vient, ça se passe mal, mais c'est inévitable. Et donc, cette structure familiale, sociale, tout ça fait qu'il y a une violence qui se dégage, il y a une haine qui se dégage, et il ne peut pas ne pas devenir un délinquant. Ça n'est pas possible. Il aurait fallu qu'il fasse une rencontre au bon moment. Mais il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de bonne rencontre.
Code B85, conclusion des éducateurs de l'Institut médico-pédagogique de la Nouvelle-Forge à Senlis. Son séjour est marqué par une grande immaturité, une impulsivité et une instabilité. Il fait des fugues et peut être violent avec les autres. Il est en pleine crise pubertaire et ses préoccupations sexuelles sont au premier plan. Il n'a pas vraiment sa place dans le groupe. Janvier 2019, enregistrement téléphonique de Bruno Chollet depuis sa prison.
Alors à 12 ans, j'avais fait une fugue, je m'étais retrouvé à Cannes et on m'a arrêté. On m'a emmené au juge des enfants. Le juge des enfants m'a dit, j'ai deux solutions pour toi. C'est soit une famille d'accueil, soit la prison en attendant un convoyeur, enfin une convoyeuse. Et là, ma grande intelligence, hein, je l'ai envoyé se faire enculer, il m'a dit bon d'accord, allez, mandat de dépôt. Et je suis resté 15 jours au 1 rue de la gendarmerie à la prison d'arrêt, la maison d'arrêt de Nice. Et je me rappelle, hein, le directeur s'appelait Monsieur Condé à l'époque. C'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Voilà, premier contact avec le carcéral. Et puis malheureusement, ça a été des va-et-vient, quoi. J'ai dévié, j'ai très 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 dévié, j'ai fait beaucoup d'années de prison.
Il m'a parlé d'une agression sexuelle grave dont il aurait été victime et il se souvient très bien du moment où ça s'est produit.
Alain Penin, expert psychologue.
C'était un 14 juillet. Donc, il avait bu un verre, et là, il aurait été personnellement victime d'agresseur, alors qu'il avait, en effet, 13 ans et demi, l'aurait sodomisé. Et lui aurait adressé une phrase extrêmement agressive. Cette phrase, c'est « Elle est pas belle, cette petite pute !» en parlant de lui. Et effectivement, cette agression sexuelle grave, ce viol, s'il a eu réellement lieu, est susceptible également d'avoir structuré des éléments particulièrement négatifs sur la conception qu'il pouvait avoir des relations humaines et notamment des relations sexuelles.
Côte B sur Europe 1, Christophe Ondelatte.
Bruno Chollet a eu une enfance fracassée. Il est entré très tôt dans la délinquance. D'abord des vols de chéquier, puis des braquages, et à 19 ans, son premier viol. Sa jeunesse est marquée par d'incessants allers-retours entre la liberté et la prison. En avril 2008, 6 mois après avoir été condamné pour avoir joué les taxis clandestins, Bruno Chollet est arrêté par les policiers du 36 quai des Orfèvres pour le meurtre de Susanna Zetterberg. Janvier 2019, enregistrement téléphonique de Bruno Chollet depuis sa prison.
Alors le jour exactement, je ne me rappelle plus quand je me fais arrêter. Moi, ça fait 8 jours à peu près, avant que je me fasse arrêter, ça faisait 8 jours que j'avais repéré, que j'étais suivi. Donc, j'y prêtais pas plus attention que ça. J'y croyais que c'était plutôt les stupes, parce que j'ai fait 2 ou 3 go-fast, et que je connais quelques personnes qui sont trappistais, quoi. Donc, je pensais que c'était des stupes. Bon, alors, comme il n'y avait rien à m'empocher de ce côté-là, enfin, avec ce véhicule, je faisais pas plus attention que ça, quoi. Donc, il suffit, après, de prendre la cote, les cotes des 442, etc., etc. Là, vous avez les procès de comment, de surveillance et l'arrestation.
Eh bien, le suspect qui est actuellement en garde à vue au Quai des Orfèvres dans les locaux de la brigade criminelle, ce suspect est un homme d'une cinquantaine d'années, un individu archi connu des services de police qui a déjà passé de très nombreuses années en prison. Ce n'est pas un récidiviste au sens strict du terme, car il n'a jamais été condamné pour meurtre. En revanche, selon nos informations, il a déjà été condamné deux fois pour viol.
Son casier judiciaire est impressionnant, il fait plusieurs pages.
Jean-Paul Contant, avocat général.
Des condamnations s'étalent de 1978 à 2007. Et il y a des condamnations extrêmement lourdes, 6 ans pour un viol en 78 et 18 ans de réclusion criminelle pour des viols et des vols aggravés en 1989. Donc je fais une première constatation, c'est que la sanction n'a aucune influence, ne modifie pas le comportement de Bruno Chollet, puisque les condamnations s'accumulent, que les temps de détention s'allongent et que Bruno Chollet continue à commettre des infractions.
Bruno Chollet a 51 ans quand il tue Susanna Zetterberg. Et la cote B1 qui contient son casier judiciaire est longue comme le bras. 5 pleines pages.
1983, Bruno Chollet va commettre 2 viols. Le premier en janvier et le deuxième en décembre. Le premier concerne une autostoppeuse de 21 ans. Il emprunte des chemins détournés qui l'emmènent dans un bois. Il prend un chemin forestier et puis là, il exhibe son arme de poing et il menace la jeune femme en lui demandant de se déshabiller, de lui faire une fellation. Il lui demande également de se masturber. Puis, après qu'il se soit dénudé complètement, l'oblige à s'allonger sur le ventre. Il la sodomise en l'injuriant et en promenant le canon de l'arme sur sa tête. Ensuite, il va prendre l'écharpe que porte la jeune femme et il lui attache les mains dans le dos. Et puis, il s'en va en la laissant entièrement nue dans la forêt, dans le bois. La deuxième affaire concerne le viol d'une jeune fille, d'une petite fille de 12 ans qui rentre chez elle à Senlis. Je crois que c'était après une partie de tennis. Chollet lui demande de monter dans le véhicule et là, il l'a, sous un prétexte que j'ignore, et là, il la menace immédiatement d'une arme en lui disant que si elle bouge, si elle ne se laisse pas faire, eh bien, elle ne reverra plus jamais sa mère. Il l'emmène dans un bois entre Senlis et Chantilly. Et là, il l'oblige à se déshabiller, à lui pratiquer une fellation. Il lui impose une pénétration vaginale, une sodomie, ce qui déclenche une hémorragie massive. Chollet décide de ramener la jeune fille au plus vite chez ses parents à Senlis. Lorsqu'il arrive, le père les aperçoit, veut intervenir. Chollet prend la fuite. Le père les poursuit. Chollet... un accident matériel, il vole le véhicule accidenté, le véhicule adverse, en emmenant l'enfant, et le père perd leur trace, et puis finalement Chollet va déposer sa petite victime devant la porte d'un hôpital. Ce sont des faits très traumatisants pour les victimes.
Cette personnalité est tout à fait caractéristique des gens qui ont cette propension au passage à l'acte.
Alain Penin, expert psychologue.
Qui sont des gens réactifs, qui sont des gens impulsifs, qui sont des gens totalement intolérants à toute forme de contrainte et d'autorité, et des gens qui sont parfaitement indépendants et qui vont aller à la recherche de la satisfaction immédiate par les voies les moins détournées possibles. Voilà, qu'est-ce que l'on peut appeler une personnalité disharmonique, que l'on appelle par ailleurs dans certaines classifications une personnalité antisociale, et que l'on peut qualifier aussi de personnalité psychopathique. Tout ça, c'est la même chose.
Bruno Chollet est condamné à 16 ans de prison. À sa sortie en 1999, il a 42 ans, il a déjà passé la moitié de sa vie en prison. Il tente alors de mener une vie rangée avec une compagne. Mais ça ne marche pas.
Bruno Chollet a eu plusieurs compagnes, toutes l'ont quitté.
Jean-Paul Contant, avocat général.
Il en a eu deux, il me semble, au début de l'année 2000. Et il en a eu une lorsqu'il était à Mirande et avec cette compagne avec laquelle il fréquentait les clubs échangistes. Les choses ne se sont pas très bien passées. À l'occasion d'une incarcération, cette compagne l'a quitté, ce qu'il a très mal vécu. Il a donc été quitté par trois personnes, ce qui le renvoie à son vécu abandonnique. Et puis, après avoir quitté Mirande, Bruno Chollet remonte sur Paris. Il va dans un foyer social et il rencontre une femme qui est cultivée, qui a un certain bagage. Ils sympathisent tous les deux, il y a une relation d'amitié qui se noue et qui va déboucher ensuite sur une relation de couple. Il va vivre donc chez cette personne.
Côte B90. Rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Fishman, Matisse et Meyer-Buzan. Bruno Chollet dit qu'il n'est pas marié. Au moment où nous le rencontrons, il a une concubine depuis un an. Il recense quatre compagnes. Sa plus longue histoire a duré 3 ans. Lorsqu'il lui est demandé les raisons de ses difficultés à trouver un équilibre affectif, il répond « J'ai mûri trop tard ». Sur sa vie intime avec sa compagne, il déclare « Ça n'est pas sexuel. J'ai eu 2 relations avec elle en 1 an ». Bruno Chollet exerce sa sexualité avec des prostituées et dans des clubs échangistes.
Il faut croire que Bruno Chollet était difficile à vivre.
Jean-Paul Contant, avocat général.
Parce que sa compagne, à un moment, compagne qui éprouve pour lui davantage un amour quasi maternel, qui cherche à le rassurer, eh bien sa compagne, à un moment, en a assez. Elle lui en a déjà parlé auparavant à plusieurs reprises, mais le 17 avril, c'est-à-dire 2 jours avant la mort de Susanna Wetterberg, elle lui annonce qu'elle va le quitter. Cet abandon, c'est les experts qui le disent, ils émettent une hypothèse, je pense qu'elle est très pertinente. Cet abandon va déclencher chez lui le renvoi d'abord à son vécu abandonnique. Il a été abandonné par sa mère. Il est quitté par ses 3 compagnes. Et puis là arrive à nouveau une séparation, une rupture. C'est l'ultime abandon qui va déclencher une souffrance que les experts qualifient d'intense, qui va raviver la haine qu'il porte en lui, haine de la société, haine des femmes, puisque ce sont les femmes l'ont fait souffrir. Et cette haine ouvre la porte à un acte d'anéantissement, de destruction, qui va le conduire à tuer Susanna Wetterberg. Les faits sont prémédités, parce qu'il y a un silencieux dans la voiture, il y a des gants en latex, il y a une paire de menottes, et surtout il y a un bidon d'essence, alors que Bruno Chollet roule avec une voiture au gazoil. Donc le bidon d'essence va servir manifestement à brûler le corps, à faire disparaître les indices. Bruno Chollet agit toujours avec sang-froid. Tout est préparé et calculé. Lorsque Bruno Chollet tue Susanna Wetterberg, il tire 4 balles dans la tête, dont 3 à bout touchant, appuyés, sans lever le canon de l'arme, il y a un seul orifice d'entrée. Et ce geste traduit, à mon sens, la haine qu'il éprouve, la rage qu'il éprouve à l'égard des femmes qui toutes l'ont abandonné. Il se venge de ces femmes à travers le meurtre de Susanna Wetterberg. Il les punit de cette façon, si on peut dire.
En décembre 2012, Bruno Chollet comparé devant la cour d'assises de Paris pour le meurtre de Susanna Wetterberg. Fidèle à son comportement devant les experts psychiatres et psychologues, il nie tout en bloc et il se montre très arrogant.
Le premier jour du procès, Bruno Chollet a fait un malaise, ce qui ressemble à un malaise.
Jean-Paul Contant, avocat général.
Sorte que la présidente a ordonné son transfert à l'Hôtel Dieu. Je suis incapable de dire si ce malaise était réel ou simulé. En tout cas, Bruno Chollet était très mécontent d'avoir été transféré à l'Hôtel Dieu. Et le lendemain, je parle de mémoire, il s'est déshabillé complètement dans sa cellule au dépôt. Il était entièrement nu et refusait de monter habillé. La présidente Xavier Simeoni lui a dit à ce moment-là qu'on le fasse monter. Et puis un garde de l'escorte est allé discuter avec Bruno Chollet qui a accepté finalement de se rhabiller.
Chloé Trion, vous suivez ce procès pour Europe 1. Vous avez vu arriver Bruno Chollet qui avait l'air complètement rétabli et d'attaque pour participer au débat.
Ah oui, rien à voir avec le Bruno Chollet cadavérique de la veille. Ce matin, l'accusé a repris des couleurs. Bruno Chollet, interrogé sur son état physique, semble même s'étonner de son malaise de la veille. « Je prends des cachets pour la prostate et l'estomac depuis 4 ans », explique-t-il à la présidente. « Et habituellement, ils me font rien. Là, ça va », précise-t-il d'une voix tout à fait assurée, même si l'articulation n'est pas vraiment le point fort de l'accusé.
Bruno Chollet est toujours dans cette attitude de domination. C'est lui qui mène le jeu. Vis-à-vis de l'interlocuteur, il ne veut pas se laisser imposer les choses. C'est lui qui choisit, c'est lui qui décide.
Janvier 2019. Enregistrement téléphonique de Bruno Chollet depuis sa prison.
Je vais vous paraphraser ce que m'a dit un jour un avocat qui m'avait déjà défendu. Maître Malherbe, voilà, à Versailles. Il m'a dit, Bruno, arrête. Ben, j'ai dit oui. Il me dit, non, mais il me dit, je plaisante pas, arrête. Parce que tu vas devenir de plus en plus indéfendable.
Il veut avoir réponse à tout, même s'il se moque de la vraisemblance de ses propos.
Jean-Paul Contant, avocat général.
L'essentiel, c'est qu'il réponde. Et puis, il est orgueilleux. Il ne veut pas apparaître comme... c'est pas très glorieux ce qu'il a fait, c'est le moins qu'on puisse dire. Comme celui qui a exécuté de plusieurs balles dans la tête une jeune fille menottée dans le dos avant d'incendier son corps. C'est assez odieux comme fait. Et Bruno Chollet ne veut pas avoir cette image-là. Et puis aussi, il a les parents de la victime en face de lui et il se sent dans l'incapacité, je pense, de leur dire quels ont été les derniers moments de Susanna, si elle a souffert, si elle a crié, etc., etc. C'est quelque chose qui est très difficile à dire. J'ai apporté une lettre avec moi que je lui avais lue au premier procès à Paris. C'est une lettre que Bruno Chollet avait écrite au juge d'instruction lors du procès qui s'est tenu en 1989. La lettre est de 1987. Il avait commencé par nier le viol et puis il le reconnaît en disant « Je ne pouvais plus rester silencieux plus longtemps. Il fallait que je parle et que je dise la vérité. Je pense que c'est la solution meilleure afin de pouvoir vivre et me regarder dans une glace sans me dire que je suis une ordure. Et puis, ce qui est très important pour moi, je crois que cette jeune femme, si elle le peut, m'accordera le pardon. » Je lui ai lu cette lettre et je lui ai demandé, Monsieur Chollet, est-ce que vous êtes toujours dans cet état d'esprit, puisqu'il niait le meurtre de Susanna Zetterberg. Il m'a répondu en me regardant dans les yeux, mais bien sûr, Monsieur l'avocat général, je le pense toujours. Ce qui montre quand même un certain aplomb et un sang-froid qui est total.
Janvier 2019. Enregistrement téléphonique de Bruno Chollet. Depuis sa prison.
On m'a dit que j'étais totalement, que j'avais aucune antipathie, que j'avais pas d'antipathie envers les victimes. D'empathie envers les victimes. J'ai dit bien sûr que j'ai de l'empathie envers les victimes, mais là, vous me parlez des victimes qui ne sont pas mes victimes. Je les connais pas, ces gens-là. Bien sûr que c'est dommage pour eux, mais je les connais pas, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de ça?
Code P15. Rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Masson et Brion. Page 4. Il aurait suivi ce qu'on appelle une psychanalyse pendant environ 16 ans de détention. Lorsque nous lui demandons ce qu'il a retenu de cette psychanalyse, il est très embarrassé pour répondre et même incapable de fournir la moindre réponse. Il finit par déclarer « Ça m'a schématiquement parlant fait faire le point, comprendre que j'en suis venu jusque-là. Et il ajoute, on est tous plus ou moins psychopathes.
Sana aurait dû rentrer à la maison le 17 mai 2008. Elle est revenue dans un cercueil. C'est le père de Susanna Zetterberg qui prend la parole en premier, en suédois, traduit par une interprète, en s'appuyant sur un texte pour ne pas se laisser déborder par l'émotion. Un texte dans lequel il évoque sa fille, un tourbillon de vie, dit-il, une jeune femme tournée vers les autres et attirée par l'écriture. Elle a d'ailleurs écrit un recueil de poèmes, publié à titre posthume en suédois et en français. Sa mère en a lu un seul à la barre. Prémonitoire, la jeune fille venait de perdre une amie et de comprendre que la vie avait une fin.
Le texte s'appelle « Mon testament ». Ça commence « Si je venais à mourir demain, ce qui, je l'appris, est un cliché qui s'avère être vrai. Cela peut arriver à tout instant, de quelque manière que ce soit ou que ce soit. »
Je me souviendrai toujours de ce regard, de cet homme qui n'a jamais eu l'amour d'une femme, d'une mère véritable.
Aurélie Cerceau, avocate de Bruno Chollet.
Et qui regardait le regard de la mère de Susanna Zetterberg, qui avait un amour débordant pour sa fille, pour sa famille, pour ses enfants. Et je pense à ce moment-là que Bruno Chollet voyait une famille qui aurait été une famille idéale. Et c'est tout le paradoxe de ce procès, c'est que on voyait cet homme qui niait les faits et qui avait un regard particulier sur la famille de cette jeune femme et qui avait une émotion vive parfois, qui avait des larmes et qui n'était pas feinte. Donc j'y pense encore. Ça hante en fait ces images-là parce que ce sont des histoires qui se percutent. Bruno Chollet avait une part de lumière, même si beaucoup, y compris au procès, on parlait d'un monstre. Je n'aime pas ce terme de monstre. Mais cette part de lumière, je l'ai vue. Je l'ai vue, bien sûr, dans nos entretiens en face à face. Et je l'ai vue même pendant le procès. C'est marrant parce qu'il avait parfois un regard comme un regard d'enfant. Je voyais dans son regard le regard qu'il devait avoir enfant lorsqu'il attendait que sa mère vienne le voir, qu'elle ne venait jamais. Ce désir d'être aimé. Ce désir de convaincre, ce désir de montrer qu'en fait, il était un homme bien. Même si tous les faits qu'il a commis démontrent peut-être le contraire.
Code B17, expertise psychiatrique des docteurs Masson et Brion. Bruno Chollet représente une véritable perversion morale, sexuelle et sociale. Une injonction de soins n'apparaît pas opportune car elle n'aurait aucune valeur thérapeutique chez un sujet pour qui la transgression est un véritable mode d'existence et qui ne pourrait faire qu'un usage déviant d'un éventuel soutien psychothérapeutique en l'absence d'implication personnelle, sincère et durable.
La gravité des faits et puis la personnalité de Bruno Chollet m'ont amené à requérir le maximum de la peine encourue, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans.
Jean-Paul Contant, avocat général.
Parce que, en présence de Bruno Chollet, je veux dire, on n'a pas le choix. Mon rôle, c'est, en tant qu'avocat général, la protection de la société. Il est bien évident que si Bruno Chollet ressortait avec l'état d'esprit qui est le sien, les risques pour de futures victimes seraient grands. Donc, j'ai demandé aux jurés de ne pas prendre le risque d'une nouvelle récidive. J'ai vu beaucoup d'accusés au cours de ma carrière. Je crois qu'on peut compter sur les doigts de la main, peut-être des deux mains, ceux pour lesquels le pronostic est très sombre, pour ceux pour lesquels aucune réinsertion n'est envisageable. Bruno Chollet faisait partie de cette catégorie.
En première instance, comme on appelle, Bruno Chollet écope d'une peine à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. En 2021, il est décédé d'un cancer. Il fumait 60 cigarettes par jour. Et il a fini sa vie comme il l'avait commencé, seul. C'était On de la Traconte, Côte B. Rédaction en chef Guillaume Maury, enquête Vincent Deby, réalisation Boris Patchinski. Le podcast de On de la traconte Côte B est disponible tous les samedis dès 6h du matin. À lundi, 14h. Et bon week-end.
Retrouvez Côte B tous les samedis de 14h à 15h sur Europe 1.